VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du jeudi 20 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, publication hier des listes définitives des candidats à la présidentielle et aux législatives du 23 décembre prochain.
Au Burkina Faso, face aux attaques des djihadistes dans l'Est, les autorités interdisent la circulation nocturne des motos.
Au Niger, fermeture de centrales pharmaceutiques privées en raison de produits périmés ou douteux.
La Somalie elle-même, confrontée à la rébellion Shebab, se dit prête à envoyer des troupes de maintien de la paix au Soudan du Sud.
Le paysage terroriste est devenu plus complexe malgré les succès contre des organisations comme le groupe État islamique, estime Washington.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la commission électorale a publié officiellement hier la liste des 21 candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Cette liste consacre définitivement l'exclusion de l'ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba et de l'opposant en exil Moïse Katumbi. Des élections législatives et provinciales sont également prévues le même jour. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le chemin est définitivement balisé en direction des élections, a dit Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, après avoir rendu public, conformément au calendrier électoral, les listes définitives des candidats présidents de la République et députés nationaux. Cette étape est un nouveau pas de géant qui atteste de la volonté de tenir les élections dans le délai prévu par le calendrier électoral a-t-il poursuivi, se félicitant au passage du travail abattu par la centrale électorale. 21 candidats présidents de la République seront donc sur la ligne de départ de la présidence du 23 décembre prochain, soit 10 de plus qu'en 2011. Parmi eux, les opposants Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe ou encore Freddy Matungulu, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir, des indépendants comme Noël Tchani, Alain Daniel Tshekomba ou Seth Kikuni, l'ancien premier ministre Sami Badibanga porté par les progressistes et l'ancien ministre cadre de la majorité présidentielle Tryphon Kin-Kyamulumba. Une seule dame parmi les 23, Marie-Josée Ifoku. À la députation nationale, par contre, ils seront 15 355 à concourir pour 500 sièges. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, environ 500 personnes ont participé hier à Kinshasa à une messe célébrée à la mémoire des martyrs des élections, 2 ans après la répression d'une manifestation d'opposants en 2016. Nos frères et sœurs morts ne sont pas les victimes de la dictature, mais les martyrs des élections. Ils ont donné leur vie pour dire à tous que les élections sont désormais le seul mode d'accès au pouvoir dans ce pays, a déclaré le père Prosper Nyoli dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Les 19 et 20 septembre 2016, 49 civils et 4 policiers avaient été tués selon l'ONU en marge de la répression des manifestations hostiles au pouvoir de Kinshasa à l'appel de l'opposition.
Le Burkina Faso, en proie à des attaques djihadistes récurrentes dans l'est de son territoire, a interdit la circulation nocturne des engins à 2 et 3 roues dans cette zone. C'est ce qu'a annoncé le colonel Ousmane Traoré, gouverneur de la région. Il a ajouté dans un communiqué que les véhicules automobiles de transport de personnes ou de marchandises qui sont autorisés à circuler sur l'ensemble du réseau routier de la région à toutes les heures de la journée ou de la nuit seront soumis à des contrôles stricts et rigoureux. Le gouverneur a également maintenu en vigueur la mesure de fermeture temporaire des sites d'orpaillage artisanaux, activités où sont généralement utilisés des explosifs artisanaux.
Au Niger, le ministère de la Santé a ordonné hier la fermeture de plusieurs centrales pharmaceutiques privées de Niamey, notamment pour des médicaments douteux ou périmés. Nanit Talani.
Cette mesure de fermeture immédiate vise 6 centrales pharmaceutiques des sociétés grossistes, notamment pour absence de contrôle de qualité des médicaments avant leur mise en vente, absence de destruction de produits périmés ou pour réapprovisionnement douteux. Les autorités leur reprochent aussi d'approvisionner des dépôts pharmaceutiques illégaux ou de ravitailler des vendeurs ambulants. 6 autres centrales ont écopé de mise en demeure et sont sommées de se conformer à la réglementation dans les meilleurs délais sous peine de fermeture. Ces sanctions sont prises à l'issue d'inspections menées par le ministère de la Santé. En novembre, la police nigérienne avait saisi plus de 13 tonnes de faux médicaments destinés au marché local. Ils avaient été commandés avec la complicité d'un agent corrompu d'une société officiellement agréée dans la distribution de produits pharmaceutiques. Le marché des faux médicaments est florissant au Niger, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique.
Au Liberia, le président George Weah a promulgué mercredi une loi sur la propriété des terres, attendue depuis des années et qui pourrait servir d'exemple ailleurs. Selon cette nouvelle loi, les communautés locales pourront dorénavant faire valoir leurs droits en avançant pour preuve des témoignages oraux, des cartes ou encore des contrats signés entre communautés voisines. Seuls 10% des terres d'une communauté pourront être déclarées appartenir au domaine public et donc être l'objet d'une concession à des sociétés privées.
La Somalie se dit prête à envoyer des troupes de maintien de la paix au Soudan du Sud, pays en proie à une sanglante guerre civile. Cette annonce fait suite à une proposition du récent sommet de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Les précisions de Michel Joseph.
S'exprimant à Mogadiscio, le ministre adjoint somalien de l'éducation, Abdirahman Jabir, a levé tout équivoque sur la volonté de son pays à voler au secours du Soudan du Sud.
D'aucuns se demandent comment un pays comme la Somalie, qui est en train de sortir d'un conflit et de l'adversité, peut fournir des troupes de maintien de la paix. Le Burundi était en guerre quand il nous a envoyé des soldats et nous a aidés à reconstruire notre pays. Qu'est-ce qui nous empêcherait de contribuer au rétablissement de la paix dans d'autres parties de l'Afrique en conflit ?
L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a proposé que des pays comme la Somalie, l'Ouganda, le Soudan et Djibouti puissent aider à assurer la sécurité au Soudan du Sud. Leurs soldats seraient intégrés au sein de la force de maintien de la paix déjà présente sur place. La mission onusienne au Soudan du Sud compte 17 000 soldats chargés de protéger les civils, de créer un couloir sécurisé pour l'acheminement de l'aide humanitaire et d'enquêter au sujet des violations des droits humains.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les responsables de la lutte antiterroriste estiment que le paysage terroriste est devenu plus complexe malgré les grands progrès enregistrés dans cette lutte, dont la reprise de territoires aux mains d'organisations telles que le groupe État islamique et Al-Qaïda. Le groupe État islamique et Al-Qaïda et leurs affiliés ont fait preuve de résilience, de détermination et de capacité d'adaptation face à la pression antiterroriste accrue en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en Libye, en Somalie, au Yémen et ailleurs, a souligné le coordonnateur de la lutte antiterroriste au département d'État américain, Nathan Sales.
Toujours à Washington, Chuck Grassley, le président de la commission judiciaire du Sénat, a écrit une lettre aux avocats de Christine Blasey Ford, la professeure qui a accusé le candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, d'agression sexuelle il y a 36 ans. Dans cette lettre, le sénateur Grassley a expliqué ce qu'elle doit faire d'ici à vendredi pour participer aux audiences publiques prévues lundi prochain. Cette précipitation vers des audiences publiques est inutile et contraire à la découverte de la vérité par la commission, a dit à CNN Lisa Banks, une avocate de Mme Blasey Ford, qui aurait reçu des menaces de mort et a dû fuir sa maison avec sa famille. Mardi, l'accusatrice du juge Kavanaugh avait demandé, avant de pouvoir témoigner, une enquête du FBI.
Les États-Unis ont salué hier les engagements importants pris par la Corée du Nord lors du sommet intercoréen de Pyongyang. Washington s'est dit prêt à reprendre les négociations immédiatement en vue d'une dénucléarisation rapide qui devra s'achever d'ici janvier 2021. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Les États-Unis félicitent les présidents Moon Jae-in de la Corée du Sud et Kim Jong-un de la Corée du Nord pour l'issue positive de leur sommet à Pyongyang, saluant leur engagement en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a invité son homologue nord-coréen Ri Yong-ho à le rencontrer la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Il a applaudi la décision nord-coréenne d'achever le démantèlement déjà annoncé du site de Tongjang-ri dédié aux tests de moteurs de missiles en présence d'inspecteurs américains et internationaux, ainsi que la proposition d'un démantèlement permanent de toutes les installations à Yongbyon en présence d'inspecteurs américains et de ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Kim Jong-un s'est dit prêt à fermer ce complexe nucléaire, mais à condition que Washington prenne des mesures correspondantes, une demande à laquelle Mike Pompeo n'a pas encore réagi.
Un adolescent palestinien a été tué par un tir israélien lors d'affrontements mercredi soir le long de la frontière très surveillée à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé de Gaza, l'adolescent manifestait après la nuit tombée dans le cadre de la marche du retour qui commémore l'exode palestinien en 1948. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque centrale sud-africaine, la SARB, en plein dilemme. Doit-elle remonter ses taux pour contenir l'inflation alors que son économie est tombée en récession? En tout cas, demain, la SARB a rendez-vous avec les investisseurs. Elle doit en effet se prononcer sur une éventuelle hausse des taux alors que sa devise est mise à mal sur les marchés depuis quelques semaines, moins de 9,9% depuis le 1er août. La hausse du dollar a mis la pression sur les devises émergentes et donc sur les banques centrales de divers pays, dont l'Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, le gouvernement propose de supprimer la représentation du secteur privé au sein du conseil d'administration du Conseil Café Cacao à partir de l'année prochaine. Les autorités ivoiriennes trouvent les intérêts privés trop divisés et craignent qu'ils entravent les réformes d'harmonisation du système de mise en vente du cacao avec le Ghana. Et pour terminer, la Tunisie qui s'attend à une hausse du service de sa dette qui devrait atteindre un niveau record de plus de 9 milliards de dinars, soit 3,24 milliards de dollars. L'information a été donnée par le ministre des Finances, Rida Chalgoum. Il faut dire que l'économie tunisienne a traversé une période difficile. Les finances du pays nord-africain peinent à se relever de la crise causée par le renversement de l'ex-président Zine Abidine Ben Ali en 2011, suivi des troubles à l'origine de la montée du chômage et de l'inflation.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite et fin de la Ligue des Champions et Ronaldo voit rouge.
Un accrochage entre Mourinho et Cristiano Ronaldo qui a poussé l'arbitre à expulser un peu sévèrement le Portugais. Ce dernier, sorti en larmes, n'avait jamais écopé d'un carton rouge dans cette compétition en 154 matchs. Pour le résultat, les Turinois s'imposent 2-0 à Valence. Grâce à un doublé de Pogba et un but de Martial, Manchester United s'est imposé en Suisse face aux Young Boys de Berne 3-0. Auteur d'une première mi-temps incroyable, Lyon a réussi l'exploit de la soirée sur la pelouse de Manchester City. Une victoire 2-1 pour l'entrée en lice en Ligue des Champions. A noter le but de l'Ivoirien Maxwell Cornet. Auteur d'une prestation solide, le Bayern Munich s'est imposé logiquement et facilement face à Benfica 2-0. Renato Sanchez a été impressionnant pour son retour dans son ancien club. Emmené par un Isco de gala, le Real Madrid tenant du titre n'a laissé aucune chance à la Roma. Une victoire 3-0 à Santiago Bernabeu. Dans le même temps, Psen s'est fait rattraper par le CSKA Moscou. Victoire finale, score nul 2-2 partout. Le Shakhtar Donetsk a réalisé la même opération face à Hoffenheim 2-2. Enfin, l'Ajax d'Amsterdam qui bat l'AEK Athènes 3-0.
Et la phase de poule de la Ligue Europa.
Marseille, finaliste l'an dernier, reçoit l'Eintracht Francfort dans un vélodrome à huis clos. Une décision de l'UEFA liée à divers incidents la saison dernière. Le favori de cette nouvelle édition, Chelsea, sera sur le terrain des Grecs du Paoka. Arsenal, désormais dirigé par Unai Emery, reçoit les Ukrainiens du FC Vorkla. Pardon pour la prononciation. Le Milan AC de Gennaro Gattuso dispute son match face au petit pousset de la compétition. Le club de Jude Lange, c'est le premier club luxembourgeois qualifié en Coupe d'Europe. Le Ludogorets face au Bayer Leverkusen, Leipzig contre Salzbourg, le Slavia Prague contre Bordeaux, l'Olympiakos face au Betis de Séville, Villarreal contre les Glasgow Rangers, le Rapid de Vienne contre le Spartak Moscou, la Lazio de Rome contre l'Apollon Limassol, Besiktas face à Sarpsborg, Genk face à Malmö et enfin Séville contre le Standard de Liège.
Retour du capitaine dans le groupe de Mazembe.
Mise à l'écart avant la manche aller en Angola face au Primeiro de Agosto, Rainford Kalaba a réintégré le groupe du tout-puissant Mazembe. Avant le match retour vendredi à Kamalondo, les Corbons auront besoin de leur maître à jouer pour l'emporter face aux Angolais et espérer une place en demi-finale.
Tennis, Rafael Nadal blessé.
Le numéro 1 mondial touché au genou droit, une blessure qu'il avait contraint à abandonner en demi-finale de l'US Open, puis à renoncer à la demi-finale de la Coupe Davis, eh bien il sera forfait pour les tournois de Pékin et Shanghai le mois prochain. Ce double forfait menace son rang de numéro 1 mondial. Novak Djokovic est en embuscade. S'il remporte le tournoi de Shanghai, il deviendra numéro 1 mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiète dans un rapport du nombre de victimes d'exécutions extrajudiciaires par des agents de l'État et d'exécutions sommaires par des groupes armés. Eli Sango a interviewé le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba.
Nous partageons totalement ces conclusions parce que nous avons presque reçu les mêmes informations qui ont été vite vérifiées et se sont avérées authentiques. Donc nous sommes aussi profondément inquiets par la montée en puissance des forces de sécurité qui n'hésitent plus à pouvoir recourir à des exécutions extrajudiciaires en direction des citoyens qui seraient accusés de faits en réalité qui ne le sont pas. Un climat de terreur qui est définitivement installé en place.
Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela maintenant que la RDC va aux élections et que le président Joseph Kabila s'est choisi un dauphin? Le climat semblait s'apaiser.
Il y a deux explications. La première serait une stratégie du pouvoir de Kinshasa qui viserait tout simplement à étendre le climat de terreur que le pays a connu, continue encore à connaître depuis quelques années, surtout dans sa partie orientale et dernièrement au centre, dans les provinces de Kasaï, et que ce climat est en voie d'être étendu durablement dans les provinces de l'Ouest, qui sont généralement connues comme les bastions de l'opposition. Comme ça, ça va pousser tous ceux qui réclament l'alternance, qui réclament des élections véritablement démocratiques, transparentes, inclusives, qui puissent se résigner et qu'ils abandonnent leur lutte en vue de laisser la place au pouvoir qui est en train de préparer une farce électorale. La deuxième explication serait tout simplement celle qui tendrait à créer l'insécurité à travers la grande majeure partie du pays pour ainsi justifier éventuellement les reports des élections.
Les bureaux des Nations Unies aux droits de l'homme parlent aussi de menaces qu'auraient enregistrées les défenseurs des droits de l'homme.
Nous sommes tous les jours ici victimes de menaces de tout genre, non seulement des menaces directes par téléphone ou par des écrits, mais la plupart des membres de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, sont victimes de filatures.
Joint à Kinshasa, Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Niger, toujours pas de nouvelles du prêtre italien enlevé lundi soir dans le sud-ouest par des hommes venus sur des motos. On ignore aussi l'identité des ravisseurs du père Pierre Luigi Makali en l'absence de toute revendication. Selon les autorités nigériennes, des poursuites sont engagées pour le retrouver. À la paroisse de Bamwanga, située à 125 km de Niamey, le religieux italien travaillait avec deux autres prêtres qui n'ont pas été, eux, inquiétés. Le correspondant de VOA Afrique à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a rencontré l'un de ces deux prélats, le père John Arokia Das, qui, en exclusivité sur VOA Afrique, est revenu sur les circonstances de l'enlèvement du prêtre italien. Voici sans interruption son témoignage.
Lundi soir, après parler avec mon ami, je suis couché. Et entre 9h30 et 10h, il y avait du bruit chez le père. Donc, je n'ai pas soulevé pour aller voir parce que je pensais que les gens du village sont venus avec un gars qui est possédé parce qu'ils ont crié. Et après, le père aussi, il est sorti. Il a ouvert la porte pour voir qui sont les gens. Et après, j'ai attendu aussi le père. Il a dit, sors, sors. Donc ça, j'ai confirmé que voilà, le père vraiment, il chasse le démon. Les gens commençaient à tirer le fusil à l'air. Donc il y avait des bruits, doum, doum. Juste 2 minutes, je me suis levé. C'était trop calme. Et après, notre cuisinière, il m'a appelé pour dire que, ah mon père, il ne faut pas allumer votre lampe chez vous, il ne faut pas sortir. Ah pourquoi? J'ai demandé, il m'a dit, ah il y avait les bandits chez vous. Et après, j'ai regardé tout de suite chez le père. La lampe était allumée. Donc, j'ai dit, ah, le père est là. Donc, j'ai téléphoné le père. Ça n'a pas sonné. Et deuxième numéro, j'ai téléphoné. Ça n'a pas sonné. Et encore, j'ai téléphoné un autre gars qui est juste à côté. J'ai téléphoné. Il m'a dit, ah, mon père, les bandits ont enlevé le père. Ah, vraiment, je ne sais pas. Donc, je voulais sortir. Il m'a dit encore, mon père, il ne faut pas sortir. Restez dedans. Il ne faut pas allumer aussi les lampes chez vous. Et après, j'ai resté dans ma chambre, j'ai téléphoné monseigneur. Tout de suite, il y avait encore, ils ont tiré à l'air vers la côté des sœurs, les sœurs où ils sont. Donc, maintenant qu'on a appris qu'ils sont rentrés aussi chez les sœurs. Et après, ils ont parti. Ils n'ont pas pris les sœurs, ils ont parti seuls avec la moto et ils ont fui avec le père seulement.
C'était le père John Arokia Das de la paroisse de Bamwanga au Niger. Ses propos ont été recueillis par notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, la grève persiste dans le secteur public. Les syndicats des fonctionnaires poursuivent leur lutte pour faire fléchir le gouvernement alors que la rentrée scolaire est fixée au 1er octobre prochain. André Kotmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
La dernière rencontre entre les responsables des organisations syndicales et les membres du gouvernement a accouché encore d'une souris. À entendre les syndicalistes, des concessions ont été faites du côté des travailleurs pour permettre de démarrer la rentrée scolaire 2018-2019, mais le gouvernement reste toujours indifférent à leurs propositions. Pour Barka Michel, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, les autres points peuvent attendre, mais au moins que le gouvernement rembourse aux travailleurs les augmentations générales spécifiques coupées depuis janvier 2018.
Si le gouvernement passe au rétablissement de ces AGS, les travailleurs pourront reprendre le travail et continuer les négociations sur les autres points qui sont restés en suspens. Par exemple, le gel des effets financiers, des augmentations et des reclassements, le frais de transport, la loi 32, etc. Malheureusement, nous n'avons obtenu rien de concret. Les travailleurs ont décidé de poursuivre la grève.
Déjà, le gouvernement s'apprête à lancer la rentrée scolaire 2018-2019 le 1er octobre prochain. La validation de l'année ne se résume pas seulement sur l'organisation du baccalauréat et du brevet d'études fondamentales. Mais il faut organiser des scénarios pour permettre aux élèves de classe intermédiaire de passer en classe supérieure avant de parler de la rentrée nouvelle, estime Gartoïde Blaise, secrétaire général du CED pour la commune de N'Djamena.
Pour ce passage-là, on a besoin d'avoir au moins 90 jours encore de cours pour compléter les 90 jours d'avant. En ce moment, nous pouvons donc parler d'une autre année scolaire qu'on s'entende là-dessus. Nous sommes méprisés et c'est en ce moment qu'on parle de l'école, de quelle école on veut parler.
Pour le délégué de l'éducation nationale pour la commune de N'Djamena, Dungus Abraï, cette question n'est plus d'actualité.
Et les classes intermédiaires, on a essayé de voir par-ci, par-là, et tous les établissements ont déjà partagé les carnets à leurs élèves. Donc je me demande de quel bulletin dont il est question.
Les élèves, premières victimes de ce bras de fer gouvernement-syndicat, se tournent vers le Dieu créateur, d'où leur viendra le secours.
L'année passée, on a fini avec seulement 2 bulletins, et franchement, ça ne nous arrange pas. Je prie tous les jours pour que Dieu aide le président à résoudre le problème qu'il y a.
Je vois ce que le président fait, les enseignants, pour qu'on reprenne les cours dans les bonnes conditions.
Les autorités, s'il peut faire quelque chose pour les jeunes, parce que nous les jeunes, maintenant, on est énervés.
C'est le cri d'une jeunesse tchadienne désemparée et qui voit son avenir hypothéqué. Même les réseaux sociaux qui permettent à cette jeunesse de se cultiver et d'être en contact avec le monde extérieur sont censurés depuis 6 mois sans aucune explication. André Kotmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La Chine reconnaît que son économie souffre de la guerre commerciale avec les États-Unis mais maintient un langage de fermeté. Washington a annoncé cette semaine qu'elle imposait des tarifs additionnels sur 200 milliards de dollars de produits chinois, Pékin a aussitôt riposté concernant 60 milliards de dollars supplémentaires de produits américains. Abdourahmane Dia.
Au Forum économique mondial de Tianjin, le premier ministre chinois Li Keqiang tente de répondre aux inquiétudes des investisseurs. Il s'est voulu rassurant, mais admet que la guerre commerciale avec Washington porte un coup dur à l'économie chinoise.
L'environnement économique et l'environnement commercial ont changé de façon significative, ce qui affecte inévitablement l'économie chinoise et qui est très intégrée dans l'économie mondiale.
Et pourtant, au même moment, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères affichait un ton ferme et promettait de ne rien lâcher, dénonçant ce qu'il considère comme une approche du bâton et de la carotte adoptée par Washington, ce qui pousse Pékin, selon certains analystes, à ne pas montrer de signe de faiblesse, même si son économie dépend beaucoup de ses échanges avec les États-Unis. Jean-Marc Blanchard, professeur à East China Normal University.
Je pense qu'ils espèrent qu'en répondant d'une façon assez proportionnelle, les choses ne seront pas hors de contrôle. Tout en montrant qu'ils sont forts, ils espèrent susciter un espoir pour négocier.
De son côté, le président Trump accuse Pékin de chercher à influencer les élections de novembre en ciblant les agriculteurs et les ouvriers manufacturiers qui souffrent le plus des taxes imposées par Pékin. C'est le cas de cette compagnie basée en Caroline du Sud. Elle s'approvisionne en grande partie à Shanghai, en Chine. Arnold Kamle est PDG de BCA Bikes.
Toute notre opération, y compris tous ceux qui travaillent ici, sont en danger. Nous allons vendre 2,8 millions de vélos aux États-Unis et nous vendons aussi dans d'autres pays. J'estime qu'avec 25% de taxes supplémentaires, on va chuter à 2 millions de vélos.
Washington se dit toujours ouvert au dialogue, mais le président Trump dit vouloir arriver à une baisse du déficit commercial avec la Chine, qui est à plus de 300 milliards de dollars. Les investisseurs, eux, espèrent une fin rapide de ce bras de fer.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, on fait le point sur le braconnage en Afrique. Le monde connaît une recrudescence du commerce illégal des espèces sauvages et l'Afrique est directement concernée. Alors que le continent concentre ses efforts sur la croissance économique et la stabilisation politique, la disparition des lions, des rhinocéros ou des éléphants passe inaperçue. Le phénomène est d'autant plus difficile à endiguer qu'il rapporte gros. Sur la liste des activités criminelles transnationales les plus lucratives, le trafic des espèces sauvages occupe la quatrième place. À qui profite le crime? Quelles sont les difficultés rencontrées par les autorités qui traquent les braconniers? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.